Bienvenue donc la potie. Aujourd'hui, nous avons rendez-vous avec Laurent Friedrich et son équipe de la Fédération de pêche du Lot, mais aussi Damien Villatte, gestionnaire d'espaces naturels au département du Lot. Il y aura aussi Lola Ferreira Martinez, technicienne rivière au syndicat mixte des bassins versants du Céou et de la Germaine. J'arrive sur place en avance grâce aux coordonnées GPS que m'a envoyé Romain Prouillac de la Fédération de pêche du Lot, que vous connaissez bien hein, dans les émissions de Clapotis. Un véhicule arrive, puis un deuxième, je les vois de loin enfiler des waders, vous savez, c'est sur pantalon étanche. Et là, je commence à m'inquiéter car je suis en jean basket. Un troisième véhicule arrive avec l'équipe de la Fédération de pêche du Lot et heureusement, ils ont un wader pile à ma taille. Merci à eux d'ailleurs. Alors une fois enfilé, passage à la désinfection de celui-ci pour éviter la contamination des écrevisses à pattes blanches dites APP. Car si nous nous retrouvons ici, c'est pour découvrir la mise en place d'un protocole scientifique précurseur pour sauver les écrevisses à pattes blanches dites APP menacées par l'écrevisse signale, aussi appelée écrevisse californienne, dite PFL. Nous commençons à marcher dans les hautes herbes, non loin des berges du cours d'eau.
Donc si on en rencontre la maladie, on ne peut que la diffuser vers l'aval.
Ah oui, oui, d'accord.
C'est pour ça qu'on commence par l'amont. Parce que si tu as la maladie en aval, tu remontes vers l'amont.
Oui.
Qu'est-ce que tu fais?
Non, mais c'est logique. Par contre, c'est vrai qu'on s'envoie les matières en suspension, on se les envoie sur les secteurs du dessous, donc faut pas trop traîner en fait. C'était un peu pour ça au départ qu'on partait plutôt de l'aval.
Oui.
En remontant, c'était pour...
Par contre, pour les pêches, on est obligé de faire commencer par là.
Oui, là, on n'a pas le choix.
Pour des questions de ouais. Visibilité dans le cours d'eau, on est obligé.
Mais qui a eu l'idée d'un tel protocole?
Alors, la Fédé, elle est partenaire du projet. Et voilà, et chaque année, en fait, on délègue du personnel. Voilà, mais c'est du partenariat avec le département et le syndicat. Mais par contre, c'est eux qui sont vraiment les pilotes de toutes les manips pendant l'année. Tout ce qui est relève chaque semaine, avec parfois deux fois par semaine, entretien des pièges, etc. Nous, on vient en renfort. Après, on va plus travailler, nous, sur le suivi des résultats. Et voilà, on y travaille tous ensemble, mais on va avoir un regard un peu plus fin sur l'évolution des effectifs.
Donc, ce risque, c'est par rapport à une maladie, donc la phanomycose, qui est une maladie... que l'écrevisse de la signale, donc l'écrevisse de Californie, est porteuse saine, c'est-à-dire qu'elle est porteuse de la maladie, mais ça ne se déclare pas sur elle. Par contre, dès qu'elle va trouver en contact avec notre écrevisse autochtone, l'écrevisse à pattes blanches, cette maladie peut se développer et va anéantir en quelques jours, en quelques semaines, toute une population d'écrevisses à pattes blanches. Donc, ici, sur ce ruisseau, on a... constaté cette population d'écrevisses à pattes blanches il y a à peu près une dizaine d'années lors d'un inventaire botanique. Donc on était content de retrouver une population qui était viable, très fonctionnelle avec toutes les classes d'âge. Malheureusement, deux ans après, on a retrouvé, c'était le syndicat qui a trouvé c'est une population également viable d'écrevisses de signal. Donc peu de temps, on a essayé de trouver s'il y avait un contact. Et malheureusement, lors d'une pêche nocturne menée avec la Fédé, on a trouvé ce contact. Et depuis là, on sait que les deux populations se sont rencontrées. Et on essaye, avec notre protocole de suivi scientifique, de maintenir la population à pattes blanches et limiter la montaison des écrevisses signal vers l'amont qui pourrait anéantir à court terme, moyen terme, toute cette nouvelle population de pattes blanches redécouverte dans ce cours d'eau. Avec Laurent, qui connaissait donc le spécialiste des écrevisses en France, donc Théo Dupéré, on l'a consulté pour, entre guillemets, avoir son avis. Et c'est là où il nous a dit « Banco, j'arrive, je viens vous aider ». Et c'est là où on a construit les premiers seuils anti-franchissement pour limiter la remontaison des PFL.
D'accord. Voilà.
Et à partir de là, donc, on a étudié le front de frondaison, le front de colonisation, jusqu'où il a été, où l'écrevisse donc, est remontée. Et à partir de là, on a positionné les 10 francs seuil qu'on va relever ce matin. Alors, donc Théo Dupéré, donc c'est le spécialiste des écrevisses en France. Donc, il a une très grande connaissance pour ces espèces-là. C'est le référent, hein, quelque sorte. Il travaille beaucoup avec les fédés, tout ça. Et donc, c'est un bureau d'études. Il travaille dans un bureau d'études, sol et eau. Et il est basé dans le 07.
Donc là, ici, c'est la limite Z3, Z4.
Z5, parce que Z5, il n'y a que le... Voilà, c'est le seuil le plus amont.
C'est le plus amont, oui, c'est ça.
C'est seuil sécu amont.
Ouais. Haut. Donc là, c'est le dernier seuil. Alors, on dit seuil, en fait, c'est une zone de blocage. C'est un petit barrage qu'on a créé artificiellement. Donc l'idée, ça a été... dans un secteur dans lequel initialement il n'y avait pas de chute, donc il y avait une libre circulation des écrevisses et la possibilité pour les écrevisses de Californie qui sont à l'aval de remonter dans ce secteur. L'idée en fait a été de les bloquer. Pour ça, pour créer cette chute, une demi-buse a été positionnée avec un angle permettant de créer une chute d'environ 20 cm. On a déporté cette buse vers l'avant pour que les écrevisses qui suivent le flux de l'eau tombent dans une autre buse qu'on a plantée verticalement dans le cours d'eau et ne puissent pas remonter. Une fois que les écrevisses sont dans cette buse verticale, en fait des trous ont été faits sur les côtés, reliés à des bidons fermés. Donc en fait, lorsqu'elles cherchent à sortir de cette buse, Elles n'ont que ces trous comme échappatoire, elles tombent dans des bidons et nous ensuite on vient, quand on dit qu'on fait la relève, on vient chercher dans ces bidons les écrevisses qui ont été piégées. Lorsque ce sont des écrevisses à pattes blanches, évidemment on les remet tout de suite à l'eau, et lorsque ce sont des écrevisses de Californie, on les sort du milieu. Les écrevisses de Californie sont enlevées du milieu, donc en fait on ne les capture qu'une fois, alors que les écrevisses à pattes blanches sont systématiquement remises à l'eau. Donc en fait, on sait qu'on retombe fréquemment sur les mêmes écrevisses qu'on a relâchées. Donc nous, ce qu'on regarde, c'est chaque année, si on a un nombre d'écrevisses de Californie par zone qui décroît, on sait que le nombre d'écrevisses à pattes blanches, lui, est en augmentation par rapport à nos captures, mais c'est normal parce qu'on recapture des écrevisses qu'on a relâchées les fois d'avant. Voilà. D'accord. Donc aujourd'hui, quand on regarde nos graphiques, on a plusieurs milliers d'écrevisses à pattes blanches capturés en fin d'année, et on a plusieurs centaines d'écrevisses de Californie. Voilà, ce qu'on sait par contre, c'est que sur l'amont, l'écrevisse à pattes blanches, elle est plus que dominante, parce qu'il n'y a quasiment que cette espèce qui est présente, avec de temps en temps, 1, 2, 3 individus d'écrevisses de Californie qu'on enlève du milieu. Par contre, à l'aval, c'est l'inverse, on n'a que quelques écrevisses à pattes blanches et beaucoup d'écrevisses de Californie. Donc en fait, on a un secteur où il n'y a quasiment que de l'écrevisse de Californie à l'aval, un secteur où il n'y a que des écrevisses à pattes blanches à l'amont, et entre les deux, on a justement une zone de contact des deux populations. Et l'idée, c'est que justement au niveau de cette zone de contact, on enlève un maximum d'écrevisses de Californie pour que l'écrevisse à pattes blanches puisse se développer normalement.
Marchons un peu plus loin.
En gros, les écrevisses sont remontées ici. Et ensuite, elles vont aller jusqu'au fond du piège et elles vont pas pouvoir ressortir. Et au fond, on a mis un appât type viande pour justement les attirer à l'intérieur du piège. Et ensuite, du coup, on va relever le tube 2 fois par semaine pour relâcher les écrevisses à pattes blanches et supprimer les écrevisses de Californie, tout simplement. Et on a 2 types de pièges à appât. Donc un autre piège qui est en forme de caisse et qui statistiquement montre que c'est un peu plus efficace que les pièges en forme de tube. Donc c'est aussi une information qu'on a eue à l'issue de ce protocole.
D'accord.
Voilà.
Oh, elle est vraiment petite.
Petit mâle, ouais. Là j'ai 2 mâles pour le moment. Ah oui, donc ça c'est un piège caisse qu'on appelle. C'est juste pour montrer du coup elles arrivent de cette ouverture
D'accord, une ouverture qui les fait monter dans la
voilà,
caisse.
Voilà, c'est plus large que le tube en fait. Et ensuite, elles arrivent ici, attirées par l'odeur de l'appât. Et elles sont bloquées ensuite dans la caisse. Donc,
Oui, en fait, ouais. Pour les auditeurs, c'est un entonnoir, mais qui ne touche pas le sol de la caisse, parce qu'il les fait tomber. Et ensuite, c'est impossible pour elles de remonter.
C'est ça. Et là, du coup, j'ai deux mâles et trois femelles dans la caisse. Et ensuite, je vais remplacer l'appât. On enlève l'appât qui est passé depuis plusieurs jours dans le piège et on remplace par un appât tout neuf.
D'accord, des appâts qui sont plutôt odorants.
Oui, c'est ça. Donc en général, on met des morceaux de viande en fait, de déchets qu'on va récupérer chez des bouchers par exemple. Et quand on n'a pas de viande à disposition ou que le boucher a plus de déchets, on met des croquettes qui sont très odorantes. Donc il y a une sélection entre guillemets de marques de croquettes qui fonctionnent bien pour attirer les écrevisses. Hop. Et ensuite on replace la caisse. Et donc finalement ce type de piège est un peu plus efficace et aussi peut-être l'entrée qui est facilitée par rapport au tube ou qui diffuse mieux l'odeur. C'est vrai que ça c'est des hypothèses sur lesquelles on va travailler. Hop. J'avais deux du coup sur ces neuf.
Il y a combien de points de capture?
Là on a 5 seuils fixes. Et ensuite, on a une vingtaine de pièges à appât qui sont disposés sur environ 1 km de cours d'eau. Ça fait pas mal de points à relever à chaque pêche. En général, la période où il commence à faire chaud, où la température de l'eau va se réchauffer, on va intervenir deux fois par semaine. En général, on essaye d'être équilibré sur la semaine, en début et fin de semaine, pour justement pas que les écrevisses restent trop longtemps dans les pièges. La période où il fait plus froid, donc l'hiver, on va intervenir une fois tous les 15 jours ou une fois par semaine. Et en fait, on va augmenter la pression de relève en fonction de la température. Quoi.
D'accord. Quand est-ce qu'a commencé cette étude, puisque c'est une étude sur l'intrication qu'il peut y avoir entre les deux espèces?
C'était en 2013 qu'on a vu les premières écrevisses à pattes blanches. En 2018, c'est là qu'il y a eu les premières écrevisses de Californie. Et en 2019, c'est là qu'on a, que la fédération a vu, tout simplement, qu'il n'y avait pas la maladie porte-sienne, donc la phanomycose. Et c'est en 2024 qu'ils ont construit le seuil routier, du coup le nouveau seuil fixe. Et donc qu'ils ont réalisé concrètement les suivis.
Le principal risque, c'est la maladie ou il y en a d'autres?
Au départ, le principal risque, c'était la maladie. Mais cette possibilité a été supprimée parce qu'on a fait analyser un lot d'écrevisses de Californie. Donc le laboratoire nous a dit que la maladie n'était pas présente. Et ensuite, le deuxième risque, c'est que l'écreviste de Californie, en fait, prenne la place de l'écreviste à pattes blanches parce qu'elle est plus dynamique, elle peut la consommer, la prédater. Et prendre sa place au niveau des habitats, donc remplacer l'espèce tout simplement. Ça, ça devient le principal risque à partir du moment où on a montré qu'il n'y avait pas de maladie. Donc c'est pour ça qu'on est parti dans cette démarche de blocage et de piégeage. C'est pour éviter cet effet de remplacement d'une espèce par l'autre, quoi.
D'accord, parce que en fait, donc, du coup, elle leur met la pression parce qu'elle leur pique leur habitat, mais après aussi, elle se reproduit beaucoup plus vite.
Oui, en fait, la fertilité est meilleure. Déjà, elle se reproduit en étant plus jeune. Donc ça permet, dès qu'il y a quelques écrevisses qui arrivent sur le milieu, ça permet de lancer une reproduction rapidement. Et puis en dynamique d'expansion de la population, elle est plus rapide que l'écrevisse à pattes blanches.
Par rapport à cette expansion, également, on a observé par rapport à cette étude la présence des femelles PFL qui avaient tendance, dès qu'elles étaient fécondées, à remonter très haut sur le cours d'eau pour ensuite disséminer leurs petits. Et ça, c'est un phénomène qu'on a pu observer parce qu'on les attrapait toujours au niveau des seuils, la limite amont du secteur sur lequel elles se trouvaient. Donc on peut dire aussi, il y a aussi cet instinct de colonisateur qui va être favorisé par l'écologie de l'espèce. C'est sa stratégie de colonisation, donc fertilité très forte et cet instinct de remonter au plus haut pour coloniser des nouveaux territoires.
Et là, pour l'instant, le bilan, on est sur une bonne moyenne ou...
Pour l'instant, on est dans la moyenne. Globalement, on observe en moyenne 40 écrevisses à pattes blanches et une dizaine d'écrevisses de Californie. Ce sont les moyennes du moment. Mais on observe du coup plus les écrevisses de Californie vers l'aval du coup. Là où justement il y a la zone de contact entre les écrevisses de Californie et les écrevisses à pattes blanches.
Et du coup c'est la zone la plus surveillée ?
Oui, surtout oui. C'est surtout celle-là qui est la plus pêchée. Enfin pêchée c'est pas vraiment le bon terme, c'est surtout on relève les écrevisses et on les charte en fait. Uniquement les écrevisses de Californie, étant donné que les écrevisses à pattes blanches sont des espèces protégées.
Ce seuil, il est un peu différent des trois qu'on vient de faire, parce qu'on a donc une convention de gestion avec le propriétaire pour éviter que les animaux donc pâturent dans le cours d'eau. Et comme il est propriétaire des deux côtés, on lui a créé un passage pour son bétail. Donc par rapport à la gestion du cours d'eau, donc avec ça, c'est un travail conjointement avec le syndicat. Donc le syndicat pourra plus le présenter, mais de telle façon pour que il y ait une gestion raisonnée des berges tout en favorisant les usages du propriétaire et en préservant les espèces. Donc après techniquement, donc Lola tu vas peut-être expliquer un peu tout ce qu'on a mis en place. Je crois qu'il y a ce seuil.
Voilà, l'idée c'est que les animaux évitent d'aller directement dans le cours d'eau parce que notamment avec le piétinement, donc ça va mettre les sédiments dans le cours d'eau et donc c'est pas forcément favorable pour les espèces qui sont présentes. Et aussi avec les déjections qui vont aller dans la rivière, dégrader la qualité des eaux et à terme peut aussi mettre un peu en péril cette population d'écrevisses à pattes blanches. Et donc on a proposé à cet agriculteur de mettre en défend les berges, notamment avec l'installation de clôtures. Mais en fait, les animaux allaient directement boire dans la rivière, donc il fallait lui proposer une solution pour continuer à pouvoir abreuver ces animaux sur les parcelles. Et donc, on a mis en place en fait un abreuvoir déporté qui, avec un système de pompe, en fait, va rejoindre la ferme plus haut et ensuite donc apporter de l'eau dans des abreuvoirs sur les parcelles directement. Donc lui, ça lui résout son problème, ça lui crée pas forcément plus de contraintes, mais voilà, on voit vraiment un effet positif pour la rivière qui est à l'époque, en fait, les berges étaient même dégradées et aplaties en fait par le passage des animaux. Et aujourd'hui, la ripisylve peut enfin se maintenir et du coup, on préserve aussi la qualité de l'eau du cours d'eau.
Et est-ce que c'était difficile la négociation ou alors ça s'est plutôt passé?
Sur ce projet-là, on a beaucoup de chance parce qu'en fait, l'agriculteur, quand lui a fait part de cette présence en fait d'écrevisses à pattes blanches, a été vraiment ravi car ça lui a ravivé en fait des souvenirs d'enfance où à l'époque, il venait dans cette rivière pour pêcher des écrevisses à pattes blanches et il était persuadé qu'elles avaient disparu. C'est vrai qu'on a eu beaucoup de chance sur ce coup-là parce que il nous a tout de suite dit « Ah non, mais moi, je ferai le maximum pour les protéger, donc je suis prêt voilà, à vous accompagner et à vous aider dans les démarches. » Donc c'est vrai que sans ça, on n'aurait jamais pu faire un projet comme ça. Donc c'est vraiment agréable de pouvoir travailler avec lui et on le voit régulièrement. Donc dès qu'on le voit avec son tracteur qui passe, on lui dit « Ah bah tiens, aujourd'hui on a eu tant d'écrevisses » et à chaque fois il a un sourire, il est ravi en fait qu'on puisse être là pour les protéger. C'est super.
Un 9. Je pense qu'ils sont tous allés de ton côté en fait.
Un 10.
Donc les pièges qu'on met, donc ils ont été construits à partir de prototypes que Théo Dupéré, donc le spécialiste, nous a laissé copier, donc avec son autorisation. Qu'il y a deux types, hein, donc on appelait ça les pièges tubes en forme de tube et des caisses, les caisses bleues. Et il faut savoir que ces pièges, on les met au printemps, au moment où le cours d'eau a les débits les plus faibles, hein, Pourquoi ? Parce que pour la simple et bonne raison, c'est que ces pièges, ils sont maintenus par un poids qu'on met à l'intérieur. Et s'il y a une forte crue, ben forcément, ils ne sont pas ancrés au sol et ils peuvent être à tout moment embarqués. Donc c'est pour ça qu'on les enlève dès que la mauvaise saison revient, vers fin novembre, début décembre, voilà, quand les débits commencent à remonter. Donc voilà, donc sont complémentaires par rapport aux inventaires qu'on peut faire et au recensement des écrevisses, mais également aussi on fait des pêches nocturnes autorisées par arrêté préfectoral, hein, donc ça c'est obligatoire. Hein, donc là on va faire une prospection par secteur et on va évaluer également la population des deux espèces comme cela. Et donc dès qu'on va trouver ces PFL, donc on va noter le secteur, on va les mesurer, comme vous l'avez vu avec les pièges. Et ça permet d'avoir des données complémentaires et avoir avec un autre mode de capture qui sont autres que les seuils et les pièges. On diversifie au maximum toutes les façons pour capturer ces PFL dans l'espoir, et ça a l'air de marcher, de diminuer ces populations de PFL sur les secteurs où il y a une forte densité d'APP. La preuve, c'est que depuis 2019, on a toujours des APP aux endroits où on a le chevauchement des deux populations. Donc on doit créer une certaine pression quand même sur les PFL, parce que l'autre, elle est toujours là.
Donc le but, c'est qu'elle perde l'habitude de remonter.
Alors, perdre l'habitude, elle ne l'aura jamais, parce que c'est toujours un instinct. Donc l'instinct des PFL, c'est de remonter au plus haut. Donc un instinct, c'est ancré dans les gènes. Donc voilà, mais c'est de... Comme le cours d'eau il est saucissonné avec ses seuils, ça va épuiser la population de PFL par secteur, et les APP qui sont moins stressées, moins agressées par ces PFL, elles se développent de façon plus harmonieuse, et surtout elles ont moins de stress par rapport à l'arrivée de l'autre espèce.
Nous arrivons sur un seuil en dur non démontable.
Alors donc là on arrive sur le dernier seuil qui a été construit en septembre 2023, donc c'est le dernier en aval. Alors pourquoi on l'a construit ? Parce qu'on est sur un ouvrage déjà fort dans la vallée, qui est un pont routier, un petit pont routier. Et surtout c'est qu'en amont on avait une population de pattes blanches qui était colonisée par la PFL. Et on voulait à tout prix préserver ces nombreux individus de pattes blanches sur ce secteur-là. Donc on a décidé, après un dossier loi sur l'eau, pour construire cet ouvrage et autorisation des services de l'État, de construire ce seuil. Donc tout en ayant comme maître d'œuvre le spécialiste, donc Théo Dupéré, qui a dimensionné, conçu, construit, parce qu'il est venu nous aider à construire tout ça, pour mettre ça en place. Donc on a eu la collaboration aussi d'un maçon qui a fait toute la partie maçonnée de la chose. Donc c'est un seuil avec deux tubes et des paniers qui sont immergés, qui nous permet de relever les deux extrémités du seuil, où les écrevisses vont venir de l'aval, vont tomber dans une petite fosse qui est sous la casquette en alu, qui vont rejoindre en passant dans des petits tuyaux de PVC 40 qui vont tomber dans ces paniers. Donc pour l'opérateur, c'est beaucoup plus simple de faire cette relève. Voilà, donc Lola va s'apprêter à faire la relève des paniers. Donc vous voyez, on ouvre et après on récupère le panier qui se trouve à l'intérieur. Donc voilà, comme ceci. Et après, on sort le panier et on a directement les espèces à l'intérieur. Il faut savoir que ce seuil, donc soumis à dossier loi sur l'eau, autorisé donc par arrêté préfectoral. Et donc nous, en retour, on donne plein d'infos, de nombreuses captures qu'on fait auprès des services de l'État qui nous valident le principe. Hein. Construit en septembre, donc pour regagner toute la partie amont du cours d'eau où on a l'APP. En aval, on considère que la population de PFL elle est tellement importante que les APP qui sont en aval sont condamnés. Parce que déjà, pour reconstruire, c'est un certain coût déjà, donc on a plusieurs milliers d'euros. Et puis, on n'a pas de barrière physique aussi marquée qu'avec la présence de ce pont. Ça rentre dans le seuil de suivi des populations.
Donc en fait, là, elles ne peuvent pas passer, mais s'il y a des crues, elles passent ou pas ?
Alors non, l'écrevisse PFL a une certaine capacité de nage, mais pas jusqu'à remonter des fortes crues. Donc il faut savoir que sous la casquette, il y a donc, entre guillemets, une certaine hauteur d'eau. Et donc l'écrevisse va remonter de l'aval. on va buter contre cette casquette, et au pied de cette casquette, il y a une fosse d'une trentaine de centimètres. Donc l'écrevisse va tomber dans cette fosse, et de part et d'autre de cette fosse, il y a des petits tuyaux qui vont rejoindre le bas des paniers. Et comme elle va avoir cette impression d'aller chercher des nouvelles caches et tout ça, donc ce qu'elle ne sait pas, c'est qu'elle va accéder à ces tuyaux et tomber dans ce panier, que nous, après, on va régulièrement relever. C'est dimensionné de telle façon pour éviter que les PFL puissent remonter. Donc là, elles ne peuvent pas remonter de façon latérale parce qu'il y a ce pont qui est très très marqué. Les berges sont très très hautes, donc par les piles du pont. Et puis voilà, donc c'est vraiment un ouvrage limitant, voilà, limitant et une barrière physique pour la PFL qui pourrait remonter de l'aval. Alors on sait que le foyer il est juste en aval, à 300-400 mètres dans un plan d'eau. Et donc là, c'est vraiment cette barrière physique pour préserver toutes celles qui sont en amont. Et donc, en amont, on va piéger les deux espèces tout en relâchant les APP et en détruisant la PFL. Avec cet espoir que ce secteur-là, en amont, soit regagné, mais il est déjà regagné, mais que toute cette population qui est entre le seuil passage qu'on a vu tout à l'heure et ici puisse s'épanouir, cette population de pattes blanches puisse s'épanouir sereinement, malgré la présence qu'on souhaite au maximum diminuer des PFL.
Il y a du résultat depuis la mise en place ?
Alors, les résultats, celui-là, c'est septembre 2023, donc c'est assez court. Alors, les résultats, c'est qu'il piège énormément, celui-là, de PFL. Puis, ça, on l'a vu dès son installation. Donc, on a énormément de captures. Et ça veut dire que, avant 2023, malgré qu'on avait mis les seuils en amont, on diminue la pression sur le seuil passage, qui était le point le plus aval, anciennement, donc on va créer une nouvelle barrière pour attraper les autres qui venaient de l'aval. Jusqu'à maintenant là, c'était cette zone où on avait les APP et les PFL qui étaient pas protégés par ce seuil. Chaque fois, les APP étaient fortement agressés par les PFL. Aujourd'hui, comme on piège celles qui sont sur ce secteur-là en amont, forcément la pression elle diminue sur les APP.
Et du coup, leur population
se développe plus sereinement. Voilà. Alors, notre objectif, c'est d'anéantir cette population de PFL qui est en chevauchement avec l'APP. Alors ces seuils sont, celui-là non, mais les premiers seuils que nous avons vus, c'est des seuils temporaires, car ça passe, c'est pas sans conséquence sur le cours d'eau, toutefois, par la continuité écologique. Et donc il a bien été dit que, et c'est notre protocole, c'est qu'au bout d'un certain nombre d'années, c'est 3 ans, on a estimé à 3 ans, si on trouvait plus de crevisses en aval du secteur, on se prenait donc le droit de, entre guillemets, l'autorisation d'enlever le seuil pour retrouver l'état initial. Donc celui-là, malheureusement, c'est en aval, donc il restera toujours. Le seuil passage, lui également, il restera toujours pour des questions de pratique par rapport aux animaux. Donc ça fait 2 barrages en aval. Et après, les 3 qui sont en amont, donc c'est pour ça qu'on les appelle des seuils sécu, bas, milieu, haut, ceux-là, on les a dès le départ définis pour que un jour, éventuellement, si notre protocole marche, on puisse les enlever du cours d'eau. Donc voilà, donc il y a aussi ce côté temporaire du seuil, des 3 seuils en amont.
Qu'est-ce que vous pourriez dire aux promeneurs, peut-être qui voient ces genres de mise en place, de ne pas y toucher ?
Alors, déjà, on est sur des propriétés privées, donc tout le monde n'est pas censé d'aller partout. Et voilà, donc on est là sur des parcelles de cet agriculteur qui nous laisse l'autorisation d'y aller. Surtout, les promeneurs, qu'ils fassent attention d'éviter de visiter tous les cours d'eau, parce que sans le savoir, entre guillemets, on peut transmettre la phanomycose, donc d'un cours d'eau à un autre. Donc là, c'est clair que si la maladie arrive sur notre secteur d'études, notre protocole il tombe à l'eau et toutes nos écrevisses à pattes blanches pourraient être détruites en quelques jours. Donc éviter de venir
d'un cours d'eau à un autre, hein, donc notamment les pêcheurs. Hein, donc il faut savoir que les pêcheurs sont sensibilisés ici. Et puis également ici, la pêche, il n'y a pas de poisson, donc voilà. Et la pêche, écrevisse, elle est interdite. Pourquoi ? Parce qu'on a, par arrêté préfectoral, alors elle est autorisée que par arrêté, mais certainement à certaines personnes. Donc le pêcheur lambda, mais ça c'est plus la Fédé qui pourra expliquer un peu le tout, ne peut pas pêcher l'écrevisse sur ce cours d'eau. Du fait de la présence des deux espèces qui sont pas évidentes à reconnaître pour les non-initiés. Voilà. Donc voilà. Donc les amis randonneurs, évitez de mettre les pieds dans l'eau. Et puis si vous voyez les pièges, laissez-les. Parce que ça rentre dans ce protocole scientifique qu'on suit depuis déjà plusieurs années.
Oui, et du coup, alors à l'échelle du département, hein, au-delà de ce ruisseau-là, tous les cours d'eau dans lesquels l'écrevisse à patte blanche est présente, la pêche de l'écrevisse est interdite. Voilà, l'idée c'est de protéger cette espèce puisque on n'a plus le droit de la capturer, mais c'est aussi d'éviter que des personnes se disent qu'il y a peut-être d'autres écrevisses de présente et aillent pêcher l'écrevisse avec des risques d'amener la maladie, etc. Par contre, sur tous les cours d'eau où il n'y a plus d'écrevisses à patte blanche, mais des écrevisses type écrevisses de Californie ou les autres espèces d'écrevisses invasives, là, la pêche est autorisée. Déjà parce que c'est une activité ludique qui plaît à beaucoup de personnes. Et en plus, ça permet aussi d'enlever un certain nombre de géniteurs de certains secteurs pour éviter justement trop de propagation à l'échelle des bassins versants.
Qui sont exactement mes interlocuteurs et quel est l'intérêt de leur structure ? Damien Villatte, gestionnaire d'espaces naturels au département du Lot.
Alors, je travaille au département. Donc, il faut savoir que le département, il est maître d'ouvrage dans cette action avec le syndicat. Alors, pour ma part, je suis gestionnaire d'espaces naturels donc au département du Lot. Je suis Damien Villatte. Et alors pourquoi le département est présent dans cette expérience ? C'est que tout simplement, c'est que cet ouvrage est construit dans un ENS. Donc il y en a plusieurs dans le département. Espace naturel sensible, donc une compétence que possède le département pour gérer la biodiversité de notre département. Donc ce sont des territoires sur lesquels il y a des animateurs qui font des animations nature, mais également qui participent à la gestion de ces milieux naturels. En association, en concertation avec tous les propriétaires, mais également tous les usagers. D'où la présence et la collaboration qu'on peut avoir avec le syndicat des berges, donc Lola, et puis également de la Fédé. Voilà. Donc je disais, oui, c'est un projet un peu innovateur, scientifique, intéressant, parce que forcément, on est un peu sur la pointe des connaissances sur des écrevisses pour ce cours d'eau-là. Et puis, il faut savoir que ces connaissances, on les diffuse, on communique, hein, pour déjà faire un retour d'expérience. Alors, aussi bien quand ça marche, c'est super facile, hein, parce que là, on peut dire on a réussi. Mais également, on s'était dit aussi que si malheureusement il y avait un échec, on voulait aussi dire pourquoi ça n'avait pas marché. Parce que c'est pour éviter que d'autres partenaires ou d'autres collectivités ou d'autres syndicats fassent les mêmes erreurs. Et ça permettait de faire des économies et d'éviter de partir dans une direction où malheureusement ça s'était voué à l'échec suite à une expérience qui pouvait se faire dans un autre département. Voilà. Donc on voulait communiquer le plus possible, d'où participation à des colloques naturalistes qu'on a pu faire mars dernier à Gruissant, où on a présenté tout notre travail auprès de ces deuxièmes rencontres naturalistes d'Occitanie.
Donc le Lot est précurseur ?
Alors complètement, le Lot par rapport à ce travail est précurseur, tout en travaillant conjointement avec le spécialiste des écrevisses, donc Théo Dupéré, qui également expérimente certains ouvrages, certains outils, et c'est lui, ça lui permet de modifier les petites erreurs pour optimiser au maximum cet outil. Et puis également, ça permet aussi de dire, regardez, il y a telle expérience que j'ai montée à tel endroit, et ça lui permet d'avoir une carte de visite, en quelque sorte, non négligeable pour son travail. Hein. Oui, oui, on est innovateur. Et après, la FEDE également. Donc, on va travailler conjointement le service com de la FEDE pour faire une plaquette d'information sur tout ce travail qu'on mène depuis 2019.
L'intérêt du département à participer à ce projet, il va se situer sur la protection.
Alors, protection, mais également, il faut savoir que le département, parce qu'on est là, parce qu'il y a cette ENS, qui est la compétence du département, donc nous, ça nous intéresse parce que, déjà, c'est travailler conjointement avec les autres partenaires, hein, donc ça, c'est toujours intéressant, et puis également, c'est pour, diffuser également ces informations, mais ça, on va le faire avec le biais de la FEDE, qui a déjà son réseau de communication, donc on va travailler conjointement, mais ce sera toujours, on le fait de façon participative, et ce qu'on a dit toujours au début, c'est qu'on était ces trois partenaires, mais à chaque fois, avec Théo et quatrième, hein, mais à chaque fois on allait se concerter au préalable pour mener toutes ces actions, voilà, c'est pas un qui va venir et prendre les lauriers des autres, non, au contraire, à chaque fois on allait se présenter avec les quatre structures en même temps.
Est-ce que c'est la première fois qu'il y a une collaboration avec autant de partenaires pour la protection d'une espèce ?
Alors, je ne le pense pas en France, je pense qu'il y a déjà eu d'autres expériences, mais autour de l'écrevisse, je pense que c'est la première. Parce qu'on a, il faut savoir qu'on a une communauté de communes par rapport à cet ouvrage routier, qui est la compétence de la communauté de communes. On a le propriétaire qui est également partant. On a la FEDE, on a un syndicat, on a un département. Et puis on a également un spécialiste. Donc vous voyez, ça commence à faire pas mal de monde. Et tout le monde a dit banco, on y va. Et puis également, il y a les services de l'État qui ont validé le principe. Donc avec les dossiers loi sur l'eau, ils ont validé les différents projets qu'on allait mettre en place. Donc vous voyez, il y a tous les feux qui sont ouverts. Et c'est vrai que trouver autant de personnes avec la même idée, la même volonté, c'est vrai que c'est pas forcément très commun. Très commun. Donc c'est pour ça que c'est une expérience qui, moi, je trouve qui est superbe et qui est super enrichissante pour tout le monde.
Et vous, sur le côté personnel, du coup, vous en tirez quoi de cette étude ?
Alors personnel, c'est toujours l'idée de d'être un peu innovateur et puis de travail bien fait, voilà, parce que moi je fais de la gestion, mais quand on a des expériences qui fonctionnent, c'est toujours intéressant, c'est gratifiant, entre guillemets, il faut le dire, et puis c'est gratifiant pour nos structures pour lesquelles on travaille aussi, donc c'est toujours intéressant de parler du travail qu'on fait, voilà, et qu'il soit écouté. Voilà, c'est ça, c'est pour ça que c'est gratifiant, et travailler dans ce bureau naturel aussi beau, je crois que rien pour rien au monde, je laisserai ma place. Donc c'est super gratifiant, voilà, tout à fait, et puis en plus c'est un travail intéressant, pointu, innovateur, donc pour un travail, c'est pas du travail répétitif, donc pour moi, c'est super.
Ça permettra de faire rayonner le département du Lot avec cette innovation sur l'écrevisse.
Ah mais complètement, rayonner le département du Lot avec ses partenaires. Donc je parle de la structure, mais également le département, le territoire. Donc il y aura la structure du département du Lot, la collectivité, mais également on pourra dire aussi que le Lot, le département ou le territoire du Lot, hein, oui, est à la pointe du protocole de sauvegarde des écrevisses avec la confrontation avec la PFL. Donc oui, c'est innovateur, ça c'est clair.
Laurent Friedrich de la Fédération de pêche du Lot.
Donc l'intérêt pour la fédération, il est double. En fait, on a un intérêt local à préserver une population d'écrevisses à pattes blanches sur un cours d'eau qui est dans un secteur du département où il y en a, où quasiment toutes les populations ont disparu. Donc là, c'est vraiment essayer de maintenir cette population. Et le deuxième intérêt aussi, parce qu'on est sollicité par différentes structures, disons qu'à l'échelle nationale, il y a beaucoup de structures qui se posent la question de comment essayer de lutter contre la progression de l'écrevisse de Californie. Là, l'idée, c'était de tester, grâce au partenariat et aux bonnes volontés, différentes méthodes de piégeage, de capture. Donc, on les a vues, les seuils fixes, les seuils mobiles, du suivi derrière, pour voir comment évoluent les choses. Voilà, pour ensuite pouvoir communiquer. Alors, on ne peut pas savoir si tout va fonctionner ou pas. On ne peut pas
anticiper le résultat. Mais ce qui est sûr, c'est qu'avec la masse de données qu'on accumule, on pourra dire ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, pourquoi, et puis donner peut-être des pistes d'action aux autres structures qui sont confrontées à cette même problématique.
Lola Ferreira-Martinez, technicienne rivière au syndicat mixte des bassins versants du CEU et de la Germaine.
Moi, je suis Lola Ferreira-Martinez et technicienne rivière au syndicat mixte des bassins versants du CEU et de la Germaine. Donc, en fait, le syndicat mixte, c'est un établissement public qui a la compétence gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations sur les bassins versants du CEU et de la Germaine. Donc, c'est un territoire qui est à cheval sur deux départements, le Lot et la Dordogne, et donc deux régions. Et le syndicat a pour mission en fait de mettre en œuvre des travaux de restauration des milieux aquatiques et également de faire de la sensibilisation auprès de tous les acteurs autour des milieux aquatiques sur son bassin versant. Donc à la fois les riverains, les élus, les propriétaires privés. L'idée c'est de préserver la ressource en eau et également de travailler sur la protection de la biodiversité qui est liée de près ou de loin aux cours d'eau et aux zones humides qui sont surtout son bassin versant. Et donc ce projet-là de préservation de la population de pattes blanches, c'est vraiment une fierté pour le syndicat de travailler dessus, car c'est une des dernières populations qu'on a sur le bassin versant. Et donc ça tenait à cœur de mes élus de contribuer à la protection de cette espèce, qui est une espèce menacée. Et donc c'est aussi une reconnaissance un peu de travail, de partenariat avec le département, la fédération de pêche et aussi le propriétaire des terrains, de montrer que tous ensemble on peut arriver à faire des actions bénéfiques pour tout le monde en fait, à la fois pour les espèces, pour le milieu, pour la ressource en eau, qui tout le monde va y trouver un compte aussi, le propriétaire. Donc c'est un peu un projet pilote et moteur sur le syndicat qui nous permet de sensibiliser d'autres acteurs sur l'ensemble du territoire.
Et au niveau personnel, ça vous a apporté quelque chose ?
Et oui, parce que c'est une espèce en fait que j'avais rarement pu voir dans ma vie en fait, pour le moment, et en si grand nombre et en bon état, on va dire. Donc c'est super plaisant en fait de pouvoir chaque semaine être au contact de cette espèce qui est rare et menacée, et on se sent utile en fait en travaillant sur des projets comme cela. C'est important, je pense, de communiquer justement sur ce genre d'action pour montrer aux citoyens qu'on fait des actions pour préserver ces espèces et que chacun peut contribuer à sa manière à protéger les milieux naturels. C'est important d'en parler aujourd'hui.
Merci d'avoir suivi cette émission de Clapotis sur la sauvegarde de l'écrevisse à pattes blanches menacée par l'écrevisse cygnale. J'espère que vous ne verrez plus cet invertébré du même œil, et merci à tous les intervenants de ce projet de sauvegarder une espèce menacée. À bientôt dans Clapotis.